Donc, comme je le disais, la famille est un lieu privilégié de transmission de notre héritage spirituel. Transmission d'un message, celui de l'Évangile. Transmission aussi de valeurs, celles qui correspondent à la volonté de Dieu. Transmission aussi d'une alliance, d'une promesse, comme nous l'avons lu dans Actes 2, verset 39. La promesse est pour vous et pour vos enfants. Et pour la prédication de ce matin, j'aimerais que nous puissions étudier ensemble le cas d'une famille dans un récit biblique, une famille qui a la lourde responsabilité de transmettre l'alliance que Dieu veut passer avec son peuple. Une famille qui est héritière de la promesse, de la promesse de Dieu, la volonté de Dieu, de l'amour de Dieu. Cette famille doit transmettre tout cet héritage. Et malheureusement, dans ce récit-là en particulier, ça devient n'importe quoi. Et je vous invite à suivre la lecture de ce récit, qui est assez long, je vous préviens, mais c'est un récit, ça s'écoute sans compter. Donc, ce passage assez long, du chapitre 27 de la Genèse, les versets 1 à 25. Quand Isaac était devenu vieux, sa vue avait baissé au point qu'il n'y voyait plus. Un jour, il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit « Mon fils ». Celui-ci répondit « Qu'y a-t-il ? » « Me voici devenu du vieux, reprit Isaac, et je ne sais pas quand je mourrai. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton arc et tes flèches, va courir la campagne et chasse quelques gibiers pour moi. Tu m'en apprêteras un de ces bons plats, comme je les aime, tu me le serviras, je mangerai, puis je te donnerai ma bénédiction avant de mourir. » Rebecca écoutait ce qu'Isaac disait à son fils Ésaü. Quand celui-ci fut parti, chassé dans la campagne, pour rapporter du gibier, Rebecca dit à Jacob, son second fils, « Écoute, j'ai entendu ton père dire à ton frère Ésaü, « Rapporte-moi du gibier, tu m'en feras un bon plat, je mangerai et je te donnerai ma bénédiction devant l'Éternel avant de mourir. Maintenant donc, mon fils, écoute-moi et fais ce que je vais te dire, va au troupeau et choisis-moi deux bons chevreaux. J'en préparerai pour ton père un de ces bons plats comme il les aime, tu le lui apporteras, il en mangera, puis il te donnera sa bénédiction avant de mourir. » Jacob répondit à Rebecca, sa mère, « Ésaü, mon frère, est couvert de poils, et moi pas. Si mon père me touche, il s'apercevra que j'ai voulu le tromper, si bien que j'attirerai sur moi une malédiction au lieu d'une bénédiction. » Sa mère répliqua, « Dans ce cas, que la malédiction retombe sur moi, mon fils. Fais seulement ce que je t'ai dit. « Va me chercher cela. » Il alla donc prendre des chevreaux et les apporta à sa mère qui en prépara un bon plat comme son père l'aimait. Puis elle choisit les plus beaux habits d'Ésaü, son fils aîné, qui se trouvait dans la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle lui recouvrit avec la peau des chevreaux les mains, les bras et la partie du cou dénudée de poils. Puis elle lui remit le bon plat et le pain qu'elle avait préparé. Jacob entra chez son père et dit « Mon père !» Celui-ci répondit « Oui, mon fils, qui es-tu ? » Et Jacob dit à son père « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier pour me donner ensuite ta bénédiction. » Isaac lui demanda « Comment as-tu fait, mon fils, pour trouver si vite du gibier ?» Jacob répondit « C'est l'Éternel ton Dieu qui l'a mené sur mon chemin. » Isaac dit à Jacob, « Viens un peu plus près, mon fils, que je te touche, pour voir si tu es bien mon fils Ésaü. » S'approcha donc d'Isaac, son père, et son père le tâta et dit, « La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. » Comme les mains de Jacob étaient couvertes de poils, comme celles d'Ésaü, son frère, son père ne le reconnut pas et lui donna sa bénédiction. Mais auparavant, il lui redemanda, « Es-tu bien mon fils Ésaü ?» Et Jacob répondit, « Oui. » Alors Isaac lui dit, « Sers-moi donc, que je mange du produit de la chasse de mon fils, pour te donner ensuite ma bénédiction. » Nous sommes donc dans la famille d'Isaac, un des patriarches. Alors Isaac, c'est le fils d'Abraham, le même Abraham avec qui Dieu a conclu une alliance. Dieu a promis de faire de cette famille-là une bénédiction pour tous les peuples de la terre. Dans notre texte, ça semble plutôt mal parti. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Qu'est-ce qui amène à ces complots, ces mensonges ? Qui est coupable ? Qui est victime ? Qui gagne ? Et pourquoi agir ainsi ? C'est ce que nous allons essayer de comprendre de notre étude de ce texte. Tout d'abord, regardons un peu le passé de cette famille, ce qui vient avant ce passage. Dieu a fait une alliance avec Abraham. Il lui a promis de faire de lui et de sa famille une bénédiction pour tous les peuples de la terre. Pour ça, Abraham et ses descendants doivent rester fidèles à Dieu. Ils doivent transmettre cet héritage, cette bénédiction pour tous les hommes dont ils sont porteurs. Ils doivent incarner cette promesse que Dieu leur a faite, l'incarner, la vivre et la transmettre. Abraham a un fils, Isaac, à qui il transmet la responsabilité de garder cette alliance faite avec Dieu. Puis Isaac, à son tour, a deux fils. Et il doit également transmettre cet héritage à l'un d'entre eux. Mais il a deux fils, et seul l'un d'entre eux doit devenir l'héritier de cette responsabilité. Et il doit choisir lequel deviendra le chef de ce peuple que Dieu a choisi. Dans le chapitre 25 de la Genèse, nous avons le récit de la naissance des deux frères, Ésaü et Jacob. Ils sont jumeaux. Ça aide pas pour les départager. Mais Ésaü est quand même né le premier, Jacob a suivi. Ésaü est l'aîné, il est donc l'héritier légitime de la famille. Pourtant, avant leur naissance, Dieu a donné une prophétie dans laquelle il affirme que ce sera le cadet qui dominera l'aîné. Dieu a choisi lui-même qui doit hériter de l'alliance faite avec Abraham. Ce sera donc Jacob, le cadet, non pas Ésaü, l'aîné. On apprend aussi que leur père, Isaac, a une préférence pour l'aîné, Ésaü, alors que la mère, Rebecca, a une préférence pour le petit dernier, Jacob. C'est souvent comme ça. Le père est souvent très fier du fils aîné, la mère, elle gâte le petit dernier. Enfin, dans le même chapitre 25 de la Genèse, quelques années après leur naissance, Ésaü revient affamé de la chasse. Il passe devant Jacob qui était là, en train de préparer un plat de lentilles. Et Ésaü, qui doit avoir vraiment très très faim, accepte d'échanger son droit d'aînesse contre de la nourriture. C'est donc, à partir de ce moment-là, Jacob qui devient l'héritier légitime de la famille. La prophétie que Dieu a donnée semble bien partie pour se réaliser. C'est Jacob qui doit devenir l'héritier de la promesse, le chef du peuple de Dieu. Et nous arrivons alors à notre récit du chapitre 27 de la Genèse que nous avons lu ensemble. Alors que se passe-t-il dans ce récit ? Au début de ce texte, Isaac appelle son fils aîné Ésaü pour lui donner sa bénédiction. Cette bénédiction est spéciale. C'est celle que le chef de famille donne à celui qui doit lui succéder. Si Isaac donne sa bénédiction à Ésaü, c'est ce dernier qui devient son héritier officiel, le nouveau chef de la famille, mais aussi l'héritier de l'alliance passée entre Dieu et la famille d'Abraham. Pourtant, Dieu a donné clairement sa volonté avant la naissance des jumeaux. C'est Jacob qui doit hériter, pas Ésaü. Isaac le sait, Ésaü le sait aussi. Et nous l'avons vu, Isaac aime particulièrement son fils aîné. Il souhaite de tout son cœur qu'il soit son héritier. Il l'appelle donc en cachette pour essayer de forcer le destin selon son désir. Alors je me permets de dire en cachette, même si le texte ne le mentionne pas, parce que normalement, à l'époque, on ne désigne pas son héritier comme ça en tête à tête. Il y a une sorte de cérémonie où la famille assiste à la bénédiction du nouveau chef de famille. Mais Isaac est obligé de faire ça en cachette parce que tout le monde sait que Dieu a désigné Jacob comme successeur. Pour preuve d'ailleurs, dans la suite de notre récit, quand Jacob se fait passer pour son frère qui se déguise avec des poils sur les bras, sur le cou, Isaac a des doutes La voix est celle de Jacob. Mais comme il est aveugle, il voit pas bien qui est la personne, il demande à toucher, il touche, il sent des poils, comme Ésaü. Il a des doutes, il sait plus trop. Il aurait pu appeler quelqu'un et lui demander « Qui est la personne qui est en face de moi? S'il te plaît, confirme-le. » Mais Isaac est pris à son propre piège. Il ne peut appeler personne pour confirmer lequel de ses fils se trouve là, prêt à être béni. Il ne le peut pas, parce que sinon on va lui demander pourquoi il fait ça en douce, et surtout pourquoi il ne respecte pas le choix de Dieu. Isaac n'aime pas le choix que Dieu a fait. Il veut transmettre les promesses de Dieu à son fils préféré, pas à celui que Dieu a choisi. Et il utilise la tromperie pour y parvenir. Non seulement il n'accepte pas la volonté de Dieu, mais en plus il en vient à pratiquer ce que Dieu considère comme mal. C'est un héritage spirituel bien bancal qu'Isaac est sur le point de transmettre, autant dans le fond que sur la forme. Alors pour nous, actuellement, c'est légèrement différent. Dieu nous demande d'annoncer son message et ses promesses au monde entier, pas juste à une personne en particulier. Mais cet héritage ne se transmet pas n'importe comment. Il n'y a pas de place pour la tromperie. On ne peut pas forcer le destin. Ce n'est pas par nos efforts qu'une personne rentrera dans l'alliance offerte par Christ. Nous ne décidons pas. Ce choix appartient à Dieu. Nous, nous sommes des témoins, nous devons témoigner, transmettre. C'est notre mission, c'est ça que nous devons faire. Mais nous ne pouvons pas décider à la place des autres, encore moins à la place de Dieu. C'est notamment le cas pour nos enfants. Nous les enseignons, nous les conseillons, nous leur parlons de Dieu et de sa parole, nous leur parlons du Christ et de son sacrifice pour eux, et nous désirons de tout cœur qu'ils suivent ce que nous savons être le bon chemin de vie. Mais nous ne pouvons les obliger à rien. Nous ne pouvons pas forcer la main à Dieu. C'est parfois difficile à accepter. Nous aimerions que nos enfants, de tout cœur, nous aimerions qu'ils rentrent dans cette alliance que Dieu nous propose. Mais c'est ce que Dieu vit constamment avec chaque être humain. Nous pouvons vivre ça avec nos enfants, avec quelques personnes, mais Dieu le vit constamment avec chaque être humain. Dieu nous a tous créés, il nous donne la vie à chacun, et il appelle chaque personne à entrer dans son alliance. Il désire de tout cœur que chaque être humain rentre dans son alliance. Mais malgré le choix qui est souvent le rejet de beaucoup d'hommes, même si ce choix l'attriste énormément, Dieu ne nous oblige à rien. Par amour pour nous. Isaac n'a pas voulu respecter ça. Il a voulu forcer la transmission de cet héritage spirituel que Dieu lui avait confié. Et pour Ésaü, c'est la même histoire. Il sait que Dieu a désigné Jacob comme héritier, et en plus il se fiche complètement de cet héritage spirituel. Il en a rien à faire de cette alliance, ça l'intéresse pas. La preuve, il a échangé son droit d'aînesse, son droit d'accéder à cette transmission de l'alliance, il a échangé contre un plat de lentilles. Il s'en fiche. Mais quand son père lui annonce qu'il veut le bénir, il se dit « Ah, j'ai peut-être encore une chance finalement de finir chef de la famille, en fin de compte. » Il n'y voit que les avantages de vie extérieure que peut lui procurer le statut de chef du peuple. Il se fiche royalement de l'héritage spirituel. Mais rentrer dans l'alliance de Dieu, c'est pas un choix superficiel, extérieur. C'est un engagement du cœur, un engagement de vie tout entière, qui ne se donne pas, qui ne s'achète pas, qui ne se simule pas. Une pratique religieuse purement extérieure n'a jamais fait rentrer qui que ce soit dans l'héritage spirituel que Dieu promet à ses enfants. C'est un choix intérieur qui se passe entre nous et Dieu. Isaac et Ésaü se plantent en beauté. Ils n'ont pas compris toute la dimension spirituelle de l'alliance que Dieu a passée avec Abraham. Mais ce ne sont pas les seuls, les autres ne valent pas mieux. Après le père et le fils aîné, voyons maintenant les réactions de la mère et du fils cadet. Donc Isaac et Ésaü complotent, mais Rebecca écoute aux portes, et elle n'est pas d'accord, parce que son préféré à elle, c'est Jacob. Donc ça l'arrange que Dieu ait désigné Jacob comme héritier. Mais là, ça semble mal parti. On a l'impression que Dieu va se faire rouler. On le sait, faire confiance à Dieu quand les circonstances semblent contraires, c'est pas facile. Et Rebecca se dit qu'un petit coup de pouce ne peut pas faire de mal. Elle déguise donc Jacob en Ésaü, avec des poils sur les bras, sur le cou, et elle l'envoie se faire passer pour lui. D'ailleurs, dès qu'Isaac entend la voix de Jacob, qui était bien plus fluette, il se rend compte qu'il y a un problème, mais nous l'avons vu, il est pris à son propre piège. Il fait les choses en cachette et il ne peut appeler personne pour confirmer l'identité de son fils. Jacob, lui, a failli tout faire rater avec sa petite voix. Du coup, à partir du moment où Isaac exprime ses doutes, Jacob ne dit plus rien. Il ne répond plus aux questions de son père, il ne dit plus rien. Et il croise les doigts pour que ça marche. Et bingo, Isaac bénit Jacob et c'est irrévocable. La volonté de Dieu a triomphé, semble-t-il. Mais quand Ésaü revient, son père et lui se rendent compte qu'ils se sont fait avoir. Ésaü est alors rempli de haine et il décide de tuer son frère. Et donc Jacob est obligé de s'enfuir loin de sa famille. Il s'enfuit chez son oncle Laban, où il passera 14 années loin des siens. Rebecca et Jacob ont-ils gagné ? Non, je pense pas. Alors oui, Jacob a bien reçu la bénédiction, mais Rebecca, elle, a perdu son fils préféré, qui a dû fuir au loin pendant 14 ans. Et Jacob, lui, qui a réussi par la tromperie, recevra ce qu'il méritait par la suite, d'une manière un peu ironique. Il voudra se marier avec la fille cadette de Laban, mais Laban va le tromper en lui faisant épouser sa fille aînée sans qu'il le sache. Le trompeur sera trompé à son tour. Le cadet, Jacob, avait trompé l'aîné, Ésaü. Eh bien, il épousera la fille aînée alors qu'il voulait la fille cadette. Dieu peut faire preuve d'humour et d'ironie parfois, même dans ses punitions. Rebecca et Jacob n'ont pas fait confiance à Dieu. Eux non plus n'ont pas compris toute la portée spirituelle de l'héritage que Dieu nous confie. Ils n'ont pas compris que ça ne se donne pas de manière extérieure. On ne peut pas faire semblant de donner, de transmettre cet héritage. C'est Dieu qui choisit. Et nous, nous sommes libres de répondre ou non à son appel. Et si Rebecca et Jacob avaient compris ça, ils n'auraient pas eu peur en voyant la machination d'Isaac et d'Ésaü. Ils auraient su que ces cachotteries servaient à rien, vu que Dieu avait déjà choisi. Ils ont voulu, eux aussi, forcer les événements, et une fois encore, par le mensonge. Pourtant, le but qu'ils poursuivaient coïncidait avec la volonté de Dieu. Oui, mais dans notre vie, Dieu veut que nous transmettions son message, mais aussi que nous reflétions sa volonté dans nos actes, que nous incarnions ce message et cette promesse. Dans cette famille, personne n'a compris la dimension spirituelle, personnelle, intérieure de l'héritage que Dieu nous a confié. Et les relations dans leur famille ont été détruites parce qu'ils ont voulu forcer cette transmission. Nous pouvons parfois commettre la même erreur dans nos familles, avec nos enfants. Nous avons tous vu des exemples d'adolescents ou de jeunes qui, à force d'être forcés justement, en viennent à être dégoûtés de la vie chrétienne extérieure. Parfois, pour les garder dans le chemin que nous savons le bon, nous pouvons en venir à leur imposer durement une pratique religieuse extérieure. Parce que nous les aimons tellement que nous voulons à tout prix qu'ils vivent selon la volonté de Dieu pour eux. Et je me sens particulièrement concerné parce que souvent les pasteurs ont tendance à exiger plus de leurs enfants que des autres enfants. vouloir qu'il soit un exemple, même pour les autres enfants, un exemple de comportement et un exemple de connaissance biblique. Les pasteurs ont tendance à mettre cette pression-là sur leurs enfants, mais c'est parfois aussi l'assemblée qui a cette exigence-là, même parfois inconsciente, envers les enfants du pasteur. Et les exemples sont nombreux, j'en connais moi plusieurs, d'enfants de pasteurs qui en viennent à être dégoûtés et qui rejettent la foi parce qu'on leur a imposé trop de choses. On n'a pas respecté leur liberté de choix dans cette transmission de l'héritage spirituel. On a parfois tendance à imposer durement une sorte de pratique religieuse extérieure à nos enfants. Mais dans ce cas, nous en oublions alors aussi que la pratique extérieure n'est rien sans un cheminement intérieur, personnel, avec Dieu. Et là-dessus, nous n'avons malheureusement aucune emprise. Ce choix se passe librement entre eux et Dieu. Nous ne pouvons que témoigner de l'appel de Dieu et conseiller nos enfants dans leur choix. Et c'est ça l'héritage que nous devons transmettre. Ce message que nous avons reçu et que nous devons apporter à tous, à commencer par nos enfants. C'est ça, c'est cet appel au choix, en leur enseignant l'œuvre d'amour et de salut que le Christ a faite pour eux. Et j'aimerais terminer en vous rappelant cet appel que Dieu nous lance à chacun individuellement. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attaché, car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis.